En fait, je crois que j'en peux déjà plus des discussions autour de ce que nous racontent les IA. J'en peux déjà plus d'entendre des gens s'extasier de tout ce que savent les IA, ou, à contrario, se plaindre de leurs hallucinations. J'en peux déjà plus des gens qui me détaillent ce qu'ils font avec GPT, avec Claude, ou même Perplexity. Ça m'intéresse plus de me demander si ces IA peuvent écrire de beaux poèmes, ou des articles crédibles. Et les comparaisons entre les productions des IA et celles des humains, eh ben ça m'épuise.
Le code a changé.
Je crois que je me fous de savoir si je pourrais un jour être amoureux d'une IA, si elle sera mon psy ou si je serai amené à l'insulter, s'il faut être poli avec elle, s'il faut en avoir peur, si elles sont trop bienveillantes ou un peu perverses. Toutes ces questions commencent à m'emmerder, mais profondément. Mais ça ne veut pas dire que les IA génératives et les grands modèles de langage qui les sous-tendent ne continuent pas de me passionner. Bien au contraire. Et à mesure que leur performance s'améliore et qu'ils entrent dans nos vies pour toujours plus d'usages, ne fait que se reposer plus fortement la seule question qui me passionne encore et depuis le début, mais comment en est-on arrivé à trouver normal de parler avec une machine ? En fait, voilà, ce qui continue de me fasciner dans cette histoire dingue qui nous arrive, c'est que désormais, on a comme terrain commun avec les machines le langage et la discussion. Nous partageons notre langue. Pas seulement le français, hein, l'anglais ou le bambara. Non, nous partageons toutes les langues. Nous partageons le langage. Nous, les humains, nous n'avons jamais réussi à communiquer vraiment avec les autres êtres vivants qui nous entourent, hein, ni les arbres, ni les chiens, ni les chats, ni même les oiseaux. Mais désormais, nous conversons tranquillement avec des systèmes techniques que nous avons créés. Au-delà de ce qu'on se raconte avec ces systèmes techniques, c'est quand même ça qui est fascinant, non ? Qu'on arrive à se comprendre alors qu'on n'est pas du tout fait de la même matière. Qu'on ne passe pas du tout par les mêmes voies pour produire de la parole. Et je crois que la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment c'est possible, comment on en est arrivé là et éventuellement jusqu'où ça peut aller.
Xavier Delaporte.
Si j'ai une conviction, c'est que je n'aurais aucune réponse à ces questions sans discuter avec des gens qui fabriquent ces machines. Pas des gens qui les vendent ou les commentent, mais ceux qui les côtoient et qui, d'une certaine manière, travaillent à l'entremêlement de nos langues. Et ça, ça m'est apparu comme une évidence un soir, devant une bière et une assiette de frites. Je sortais d'une conférence organisée par d'anciens élèves de Polytechnique et on discutait à la terrasse d'un café le long d'un boulevard de moins en moins passant à mesure que la soirée avançait. En face de moi, il y avait un des intervenants de la conférence, Patrick Pérez. Un type très sympathique, ce Patrick Pérez. Très simple, très abordable, pas tellement l'image qu'on se fait d'un ponte de l'IA. Parce que Patrick Pérez en est un, ponte de l'IA. Après une belle carrière d'ingénieur à l'INRIA et à Valeo, il a pris la direction d'un lieu intrigant qui s'appelle QTI. QTI, c'est un laboratoire de recherche en IA financé par 3 milliardaires.
Tout d'abord, Xavier Niel, patron de Free.
Et notamment actionnaire du journal pour lequel je travaille, le Nouvel Obs.
Mais aussi
Rodolphe Saadé, de CMA-CGM.
Et enfin,
Eric Schmidt, ancien PDG de Google.
Chacun a donné 100 millions d'euros, ce qui est beaucoup, et a permis de recruter une dizaine de personnes très qualifiées. QTI, c'est pas une entreprise dédiée à la production de services. Le labo est non-profit et fait de la science ouverte, c'est-à-dire que tous les résultats sont publiés et exploitables par d'autres. Et depuis 2 ans que QTI existe, ils ont déjà sorti un modèle d'IA qui s'appelle Moshi et qui fait du speech-to-speech, c'est-à-dire qu'on lui parle et il répond par la voix.
Hi, my name is Moshi. How can I help you today?
Et aussi un modèle de traduction simultanée, c'est-à-dire que je parle à la machine dans une langue qu'elle traduit pendant même que je parle.
Parlo alla macchina in una lingua che traduce mentre parlo.
Deux innovations qui ont manifestement été très bien accueillies par la communauté, ce qui est assez balèze hein, pour une petite équipe et européenne qui plus est. Et Patrick Pérez, ce soir-là, il est là, peinard, à siroter sa bière et à discuter avec son voisin. Et à un moment, il dit un truc qui m'intrigue. Il commence à raconter que ce qui a été compliqué avec Moshi, c'est de l'entraîner à interrompre son interlocuteur. Parce que c'était un des grands défis que s'était donné l'équipe, il fallait que la machine soit capable de parler pendant que l'humain parle. Alors, sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt ? Parce que ce qui est cool avec les IA, c'est précisément qu'elles attendent qu'on ait fini sa phrase avant d'ouvrir leur bouche, contrairement à la plupart des humains. Pourquoi se faire interrompre par une machine ? Et puis, quand je suis rentré chez moi, cette idée m'a trotté dans la tête. Parce qu'au fond, l'interruption, c'est une forme d'entremêlement assez puissante. Parler en même temps, parler l'un sur l'autre. Et plein de questions me sont venues à l'esprit. Pourquoi c'est si compliqué d'apprendre l'interruption à une machine qui, par ailleurs, a engrangé une bonne partie du savoir du monde, hein ? Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ? Et pourquoi c'est important d'apprendre ça à une machine ? Alors, on a fini par prendre rendez-vous à la maison de la radio. Patrick Pérez est arrivé, toujours aussi sympa. Plus de bière devant nous, mais des micros. Et on est parti de cette question qui m'obsédait depuis quelques semaines. Mais pourquoi l'interruption était si importante dans son projet ?
C'est vraiment, tant qu'on puisse en juger de nos expériences quotidiennes, partie prenante de nos interactions. Et ce faisant, de pouvoir avoir le même type de comportement pour une IA vocale semble important. Pour accéder à des niveaux de naturel et de fluidité dans l'interaction vocale qui n'étaient pas atteints avant de faire ceci. C'est pas que l'interruption en tant que telle, c'est aussi le fait qu'il y ait des interjections, des petits mots, simplement qui disent que l'autre est là et il est dans la discussion. Mais il y a d'autres aspects, mais qui sont liés techniquement, qui sont aussi liés à la rapidité. Il y a une forme particulière d'interruption qui est de commencer à répondre ou à parler avant que l'autre est tout à fait fini et qui permet aussi d'aller plus vite. Des fois, on a très bien compris ce qu'il veut dire, des fois pas du tout. Mais en tout cas, c'est tous ces aspects-là qui nous semblaient importants d'attaquer avec des technologies qui ne le permettaient pas encore et qui obligeaient en particulier à avoir des tours de parole déterminés qui rendent les choses très claires, mais pas très fluides et pas toujours très plaisantes du point de vue de l'utilisateur humain.
Ouais, donc moi, je crois que j'ai un peu fantasmé le truc. En fait, l'interruption, c'est un phénomène parmi d'autres à prendre en compte quand on veut une interaction fluide, naturelle, comme dit Patrick. Mais ce qui me semble étrange, c'est que ce soit si compliqué techniquement. Enfin, autrement dit, pourquoi c'est un défi technique, l'interruption ?
Parce que ça oblige la machine, donc le réseau de neurones en l'occurrence, à traiter simultanément différents flux à tout instant. Il n'y a pas une décision explicite de savoir, il y en a un qui parle, l'autre se tait entre l'utilisateur et la machine. Ben ça, c'est plus simple techniquement parce qu'il y a un seul flux qui est traité et puis ben, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre qui parle. Si on veut permettre des interruptions, des interjections, etc., des interactions de ce type-là, il faut qu'à tout instant, la machine soit en capacité de traiter l'audio qui vient de l'utilisateur et son propre audio à lui.
Ah, voilà. Et donc, en fait, ça veut dire que vous créez deux flux.
Deux flux en permanence qui sont traités par la machine. Alors, celui de l'utilisateur, il est ingéré, et celui de la machine, il est produit. Donc, il y a une asymétrie normale, mais dans les entrailles du réseau de neurones, ces deux choses-là sont vues comme deux flux. Et la tambouille interne qui permet de les prolonger, parce que c'est ça que font ces IA génératives, hein, elles prolongent les choses, ces deux flux sont amalgamés à l'entrée, et puis après, il y a une façon de les démêler à la sortie, mais tout est mélangé en fait, et le réseau de neurones, l'IA, apprend à travailler avec ce mélange.
Mélange de flux. Tiens, c'est drôle parce que quand je parlais d'entremêlement des langues, eh ben, j'aurais pas pensé que ça aille jusque-là. Bon, après, Patrick m'a expliqué qu'il y avait tout un travail à faire pour bien distinguer le flux de l'utilisateur et celui de la machine, mais alors là, j'avoue que malgré ses talents de pédagogue, ça m'a un peu dépassé. Bon, moi, de toute façon, ce qui m'obsède, c'est l'interruption. Et une question en particulier, comment on apprend à la machine à bien interrompre ? Déjà, il y a le premier problème de la fréquence et du timing de l'interruption. Il ne faut pas qu'elle interrompe trop souvent, sinon ce serait pénible. Il faut qu'elle interrompe au bon moment, sinon ce serait bizarre. Ensuite, il y a le problème des différents types d'interruptions. Dans nos discussions entre humains, là, il y a plein de sortes d'interruptions. L'interruption impatiente, parce qu'on sait où l'autre veut en venir, et dont vient de parler Patrick, mais aussi l'interruption autoritaire, par exemple, pour obliger l'autre à se taire, ou alors l'interruption taquine, pour glisser une blague, etc. Enfin, il y en a mille autres.
Expérience.
Hôtel Kinski, apprenti marmiton, 6 mois.
Hôtel Berlin, Serpillière et Ballet, 3 mois. Avant ça, récureur de poils dans un banquet.
Expérience zéro.
Plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là.
Il n'est pas mort.
Oui, il est.
C'est faux.
Non, il n'est pas.
Oui, il le sera bientôt et il est très malade.
Je vais mieux, c'est vrai.
Non, c'est faux, tu seras raide mort dans un moment.
Non, après, vous
monsieur
pourrez
Poutou,
parler. Non, monsieur Pion, vous pourrez parler
pas
après.
Comme ça.
Oui, non, d'accord.
Je ne veux pas aller dans la charrette.
Oh, t'arrêtes de faire le bébé, oui.
Conçu comme son propre fondement.
Eh bien, ce discours.
Non, laissez-le.
C'est faux.
Encore merci, monsieur Gustave.
Fixez ce calot, Anatole, à votre service, Herr Schneider.
La lanière a pété.
Ce n'est pas présentable.
Êtes-vous pour ou contre le troisième lien, vous?
Le troisième lien, il faut voir le projet. Laissez-moi répondre, monsieur Deltel.
Éducation.
J'ai appris la lecture et l'orthographe. J'ai commencé l'école primaire. J'ai presque
éducation
fini.
Éducation zéro.
Et je suis très fier d'être député de Québec.
Oui, et je vous pose une question claire. Pour ou contre le troisième lien? Oui ou non? C'est pas honteux, là. C'est pas une maladie vénérienne.
Nous avons toujours dit la même chose, monsieur Deltel.
Cet après-midi, monsieur Gustave.
Sans faux, Raoul.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Pas maintenant.
C'est du bitone.
Du bitume.
Mes bras, c'est des bidules.
C'est des bidons.
Mes bras, c'est comme des bidons.
Attends, ta gueule pour voir, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bien aussi.
Alors, dans l'ancien temps de l'IA, il aurait fallu enseigner à la machine toutes ces catégories et lui faire comprendre les contextes de chacune, et ça n'aurait pas marché. Aujourd'hui, l'entraînement d'une IA, c'est l'ingestion de données. D'où ma question, avec quelles données on entraîne une IA à bien interrompre?
Avec des gens qui s'interrompent. Un gros travail sur la partie finale de l'entraînement de cette IA a consisté à enregistrer des gens en studio qui dialoguaient de façon très naturelle, y compris en improvisation ou avec des scripts qu'on leur proposait, et avec ce côté-là d'interaction, d'interruption, etc. Et s'il y en a suffisamment dans les données d'entraînement, alors après on en a créé de façon synthétique, ça permet l'apprentissage final d'un modèle qui fait du dialogue naturel de ce type-là.
Alors là, je sursaute. Données synthétiques? Ah bon, mais pourquoi des données synthétiques? Pourquoi ne pas se contenter de données provenant des humains? Ça suffit pas tout ça?
Ça fournit environ 200 heures d'enregistrement, ce qui est beaucoup et peu. Alors beaucoup parce qu'il a fallu les produire et les enregistrer. Et ensuite, on a généré à partir de ça des dialogues synthétiques, c'est-à-dire et le contenu du dialogue, donc le script, et ensuite sa mise en voix ont été faits par des IA. Donc ça nous a permis d'avoir des dizaines de milliers d'heures d'interaction, de discussion très vivante et très plausible entre des personnes qui...
T'entraînes l'IA avec des données produites par l'IA?
C'est de plus en plus fréquent, en fait, y compris pour les modèles purement textuels. C'est vraiment une des composantes importantes désormais dans le cycle de développement des IA généralistes, c'est de recourir à un moment donné, plutôt à la fin, à des données synthétiques qui permettent de faire à très grande échelle des choses qui autrement auraient nécessité de l'intervention humaine, coûteuse et pas toujours facile à obtenir. Alors, il faut le faire très soigneusement, évidemment, pour que la donnée en question soit de qualité.
Parce qu'il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de risque de déperdition?
Il peut y en avoir, mais si c'est ça ou rien. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Et une autre façon aussi de faire, qui est une autre façon d'utiliser la donnée synthétique, c'est d'utiliser des modèles déjà existants, qui sont très bons, éventuellement très gros et très puissants, les utiliser pour créer de la donnée synthétique qui va permettre de poursuivre ou finir l'entraînement d'un modèle plus petit, par exemple. C'est ce qu'on appelle la distillation.
Ah, c'est ça le nom, distillation?
La distillation de connaissances. C'est utiliser une IA pour en entraîner une autre.
Oh, c'est dingue. Sur le moment, j'avoue, ça m'a stupéfait. Mais après, je me suis souvenu de trucs que j'avais lus à droite à gauche sur ce phénomène consistant à entraîner de l'IA avec des données produites par l'IA. Par exemple, il y a un cas d'espèce, la surveillance vidéo algorithmique. Parce que pour entraîner les modèles à repérer des situations qui peuvent se produire dans la rue et qu'on veut identifier automatiquement, comme un mouvement de foule ou alors un corps qui tombe ou une bagarre ou autre, il arrive qu'on ne dispose pas de suffisamment d'images à faire ingérer à la machine. Ou alors on a des images, mais elles viennent d'autres pays où les villes ou les contextes ne sont pas les mêmes. Alors, on peut avoir recours à la fiction, mais là, ça pose quand même un problème théorique majeur. Ou alors, plus simple, on a recours à des images générées par l'IA. Même si je trouve très étrange d'entraîner une machine avec des données produites par la machine dans un contexte sécuritaire qui est censé, me semble-t-il, coller au réel, j'avoue que ce que me raconte Patrick me pose aussi question. La machine est entraînée à nous parler grâce à des données produites par la machine. Bon, ça, c'est encore une forme d'entremêlement que je n'avais pas prévu. Et si je posais à Patrick tout à l'heure la question de la déperdition, c'est parce que, même de qualité, la parole de l'IA, ce n'est pas la parole humaine, on le sait, hein. Donc, si on entraîne l'IA avec une sorte de parole légèrement dégradée dans l'intonation, dans le rythme, etc., est-ce qu'on ne risque pas, au final, d'obtenir une parole vraiment dégradée? Bon, Patrick lui dit, il faut faire attention. Ok, je lui fais confiance. Mais bon, est-ce que tout ça, ça signifie que Moshi, le modèle de Patrick et son équipe, est un modèle compliqué?
Comme il traite tous les flux un peu à l'identique, sa structure est assez simple. Il a une horloge interne très simple qui est à 80 millisecondes, parce qu'il faut quand même, c'est du signal de parole. Et ça permet de faire des choses plus simples que d'autres pour d'autres applications, comme celle qu'on a sortie récemment de traduction simultanée en temps réel. C'est plus simple avec ce genre d'architecture que de voir avoir des systèmes compliqués où les choses sont faites de façon asynchrone. Là, tout est fait de façon synchrone.
Pourquoi
Mais c'est plus compliqué à l'entraînement.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il faut que toutes les données soient sous la forme qui permettent de mettre en place, d'entraîner cette architecture multiflux synchrone. Par exemple, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en plus des deux flux audio, il y a un flux textuel. Bien, l'entraînement, il faut qu'il y ait ces flux audio et ce flux textuel et qu'ils soient synchronisés d'un point de vue temporel.
Le truc sur la qualité des données et la synchronisation des flux, c'est très intéressant, même si, je reconnais, ça reste un peu abstrait pour moi. En revanche, il y a un truc très concret qui m'étonne beaucoup dans ce que vient de dire Patrick. Il a parlé d'un flux textuel. Or, bon, ce que fait son modèle, c'est ce qu'on appelle du speech-to-speech. Ce qui entre dans la machine, c'est notre voix, de l'audio, et ce qui en sort, c'est une voix synthétique, de l'audio aussi. Tout ça, donc, ce sont des données audio. Alors, pourquoi y a-t-il besoin d'ajouter un flux textuel ?
Au départ, il y a un modèle textuel, donc un modèle génératif, un LLM, comme GPT. Et c'est à partir d'un modèle purement textuel qu'on commence à rajouter nos flux audio et on lui apprend à parler, puis à dialoguer. Et il s'est avéré que garder ce flux textuel permet de mieux retenir, de mieux conserver les capacités, en particulier de connaissance et de raisonnement et du modèle textuel initial.
Et comment tu l'expliques ça? Est-ce que tu as une explication théorique au fait qu'il faut un flux textuel? Parce que nous, quand on se parle, on n'a pas de flux textuel, si tu veux. Enfin,
on ne sait pas.
En fait, on découvrirait qu'on a un flux textuel.
Par ailleurs, moi, je connais des gens, quand ils entendent parler, ils voient les sous-titres de ce que la personne est en train de dire. Donc, c'est peut-être plus compliqué.
Enfin, tous les gens qui ont des cultures que orales, alors ça veut dire qu'elles font comment?
Non, mais c'est vrai, il y a un côté un petit peu mystérieux. Pour nous, on a plusieurs explications. C'est que il se trouve qu'il y a une phase, ce qu'on appelle le pré-entraînement, pendant laquelle des très, très grands volumes de données sont utilisés. On connaît cette histoire pour les LLM, c'est en gros tout ce qui est écrit sur Internet sert à faire la phase initiale d'entraînement à très grande échelle. On a un peu la même chose pour Moshi, où avec une phase de pré-entraînement, c'est quand le modèle commence vraiment à apprendre à parler, où là on a utilisé des millions d'heures d'audio en anglais en l'occurrence, et sans doute qu'il y a moins de richesse et de diversité dans ces contenus vocaux que dans du texte à grande échelle sur Internet. Ça peut être une explication. Donc, peut-être qu'on aurait pu faire mieux si on avait le même volume de données audio, mais beaucoup plus qualitative. On ne sait pas à ce stade, parce que le passage à l'échelle est compliqué. Ça, c'est une chose. Et l'autre aspect, c'est que donc les capacités des réseaux de neurones, en général, elles sont résumées. Enfin, un des critères, c'est leur taille, ce qu'on appelle le nombre de paramètres. Et notre modèle, il ne change pas vraiment de taille quand il passe de l'écrit à écrit et audio en même temps. Donc, il doit bien dédier une partie de sa capacité de calcul à faire autre chose que du langage. Parce que l'audio, enfin la voix, c'est aussi de l'acoustique. Et cette acoustique, cette qualité, le timbre de la voix, la prosodie, et même l'acoustique de l'environnement, c'est des choses que le modèle doit aussi produire pour avoir une qualité, une vraisemblance de l'audio produite et qui est sans doute prise sur le reste de ses capacités.
Il y aurait une déperdition un peu.
Une déperdition, ouais.
Ouais.
Alors là, c'est passionnant ce que raconte Patrick. Et pourquoi ? D'abord, le fait que les données audio disponibles sur Internet sont peut-être moins qualitatives que les données textuelles. Ça, en effet, c'est possible. Mais il y a autre chose.
Il y a mécaniquement moins de connaissances dans un volume égal de contenu sonore et de contenu écrit. Moi qui suis journaliste à la fois dans la presse écrite et à la radio, je sais bien que je peux pas mettre la même densité d'informations dans une phrase que je dis à la radio et dans un texte que j'écris pour mon journal. Si j'étais aussi dense en informations dans une chronique radio que dans une chronique écrite, personne n'arriverait à suivre ce que je dis à l'antenne. Donc, finalement, dans son entraînement, le réseau de neurones subit peut-être les conséquences de ce phénomène qui paraît tout à fait humain. Il lui faudrait beaucoup plus d'audio que de texte pour arriver à la même qualité de connaissance. Mais l'autre explication avancée par Patrick, elle est tout aussi passionnante. Tout ce qui est de l'ordre de l'audio, de l'acoustique, empiéterait sur le sens. Et le flux textuel permettrait de limiter cette déperdition. C'est intéressant, hein. Comme si la machine était embarrassée par toutes ces informations comme le ton, la prosodie, des informations qui ne sont pas immédiatement porteuses de connaissances pour elle. Alors, je ne suis pas certain que ce soit la même chose pour nous. Peut-être que nous, on trouve d'autres informations dans l'acoustique, qu'elles nous aident même à mieux comprendre le sens. Est-ce que ce n'est pas là une différence fondamentale entre ce que le langage est pour nous et ce qu'il est pour la machine ? Est-ce que nous n'arrivons pas à trouver des informations, nous, là où la machine a plus de mal à en trouver ? Bon, en vrai, je sais pas, mais c'est quand même très intriguant. Cela dit, ce qui est encore plus intriguant, c'est que Patrick n'arrive pas à l'expliquer, et qu'il parle même de mystère. Il constate un phénomène, ça marche mieux quand on conserve du texte, mais personne ne sait pourquoi. Alors moi, comme un enfant, je lui pose quand même la question. Mais pourquoi ? Pourquoi tu sais pas ?
Parce qu'il y a de l'empirisme, ce qui effectivement peut sembler un petit peu étrange, mais c'est ce qui se passe en ce moment dans la recherche, en tout cas en IA, des grands modèles, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont apparues par empirisme, enfin c'est de la recherche expérimentale, et les choses se font à une telle échelle qu'il n'est pas toujours évident de tester plein d'hypothèses. Et même pire que ça, quand on veut tester certaines hypothèses, on peut être tenté de faire sur des plus petits modèles, qu'on appelle des problèmes joués, etc. Et des conclusions ou des résultats obtenus sur ces petits modèles joués ne permettent pas nécessairement d'extrapoler ce qui va se passer quand le modèle aura vraiment sa taille finale. Donc il y a une vraie problématique de, étant donné les masses de données et de ressources de calcul nécessaires à l'apprentissage de ces modèles généralistes de grande capacité, tester certaines hypothèses est difficile. Pour des raisons de ressources, en fait.
Difficile ou impossible ?
C'est faisable, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que chacun de ces modèles n'est obtenu que sans avoir fait des itérations et des essais-erreurs. Il y en a quand même beaucoup, mais ils ont un coût. Donc, on les limite au maximum. Donc, on entend beaucoup que ces IA sont des boîtes noires, y compris pour leurs concepteurs. Ça vient de là aussi, c'est que la communauté est arrivée à maturité sur un certain nombre d'outils, mais beaucoup par essai-erreur, mais avec beaucoup d'intuition aussi. Mmh. Ces outils, on sait désormais qu'ils nous permettent d'entraîner un modèle de langage de zéro. Mais ces modèles-là, une fois de plus, ils sont entraînés sur des milliers de milliards de mots, dans le cas d'un modèle textuel. Ils comptent des milliards, des dizaines ou des centaines de milliards de paramètres qui sont des nombres, qui ont été fixés. Et après, savoir exactement ce qui fait quoi, c'est vrai que c'est difficile. Après, c'est des questions de recherche également qui se heurtent à ce défi-là, qu'à cette échelle-là, toute expérimentation est très coûteuse.
Je trouve très intéressante cette reformulation de l'idée qu'on entend beaucoup consistant à dire que l'IA, ce sont des boîtes noires dont on ne sait pas bien comment elles fonctionnent. En fait, si on en croit Patrick, c'est pas exactement ça. Et d'ailleurs, ce qu'il dit recoupe ce que m'ont dit d'autres chercheurs en IA. C'est pas tant qu'on ne sait pas comment elles fonctionnent, en fait, il est tout à fait possible de décrire les méthodes employées. C'est plutôt que, étant donné le nombre gigantesque de données, de paramètres et de calculs, il est difficile de savoir exactement comment a été obtenu le résultat. Et là, je me dis, ok, ça c'est une particularité de la parole de la machine. Et puis ensuite, je me dis, mais après tout, est-ce qu'on sait exactement pourquoi un être humain dit ce qu'il dit ? Est-on plus capable de savoir comment l'humain est arrivé à prononcer cette phrase, à écrire ce paragraphe ? Il y a des disciplines entières qui, d'une certaine manière, sont consacrées à comprendre ça, comme, la critique littéraire ou même la psychanalyse. Et j'ai pas l'impression qu'elles arrivent à statuer définitivement sur la raison d'une parole produite. Donc, au fond, on pourrait se dire que c'est pareil pour les machines. Sauf que, et ça c'est très intéressant ce que Patrick rappelle,
pour les machines, on pourrait le savoir. On pourrait savoir comment telle ou telle parole a été produite. Enfin, on pourrait au moins tester des hypothèses. Mais ce serait trop coûteux. Coûteux en temps, coûteux en énergie consommée, coûteux en argent. Et là, en écoutant Patrick, je me dis que c'est peut-être ça une des particularités de la parole des machines. C'est qu'elle a un prix. Tout ce qu'il faut pour qu'une machine soit bien entraînée à parler, eh ben, ça coûte de l'argent, de l'énergie. Tout comme coûte cher ce qu'il faudrait investir pour savoir vraiment pourquoi elle parle comme ça. Si je caricaturais, eh ben, je dirais que la parole des machines est presque plus une question de fric que de technique. Alors, j'allais faire la remarque à Patrick, quand un phénomène étrange, un phénomène technique étrange, s'est produit dans notre studio. On s'est mis à entendre des grésillements désagréables et on n'arrivait pas à comprendre d'où ils venaient.
Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a encore le son, c'est super chelou. Hein. Ah, ok, donc on le change alors? Désolé, il y en a des. Ok, je déplace ou... Tiens, ça dérange, excuse-moi d'aller là parce que le micro... Tiens, prends ton eau. Ouais.
Le micro là-bas?
Ouais, il semblerait que quand on le coupe, ça va mieux. C'est bon là, comme ça? Vas-y, si tu parles de 2 minutes.
Est-ce que c'est bon? Teste le micro.
Ouais, c'est mieux. Hein. Bon, c'est bon, on enchaîne? Tu dis c'est coûteux, mais donc c'est qu'une question de moyens, où il y a vraiment l'idée qu'il faut renoncer, par exemple, à l'explicabilité totale, tu vois?
Il y a les deux. Il y a un vrai obstacle au niveau des ressources que nécessite l'entraînement, le réentraînement d'une grande IA, donc généraliste, qui oblige quand même les gens les mieux dotés à limiter le nombre d'essais. Après, il y a l'autre aspect, effectivement, qui est la nature des réseaux de neurones actuels utilisés pour ces IA génératives, fait qu'il est très difficile de démêler, après tout ce calcul, puisqu'en fait, toutes les capacités sont distribuées à travers ces dizaines, centaines de milliards de paramètres. Ce qui ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. Il va y avoir des évolutions. Peut-être qu'il y aura même des révolutions, des changements de paradigme avec de nouveaux types de réseaux de neurones pour lesquels, par design, l'explicabilité sera beaucoup plus accessible. On ne sait pas.
On ne sait pas pourquoi.
Parce que c'est de la recherche.
Alors, l'explicabilité, c'est un enjeu important pour le champ de l'IA. C'est la capacité à expliquer comment est obtenu le résultat. Alors, ça pourrait être exigé par le législateur, hein, pourquoi pas, dans le cas d'applications qui ont des conséquences directes sur notre vie. Or, force est de constater que, pour toutes les raisons que vient de donner Patrick, c'est encore un horizon inaccessible, en tout cas dans l'état actuel des réseaux de neurones. Et si l'explicabilité des machines s'impose, alors qu'on ne se l'impose pas à nous-mêmes, hein, eh ben, c'est parce qu'on pardonne moins aux machines qu'aux humains. Et que s'il nous est supportable d'être opaque à nos propres yeux, eh ben, c'est beaucoup moins supportable que nous soit opaque des machines qu'on a créées nous-mêmes. Comme si, au fond, on exigeait de la parole automatique plus de transparence que nous exigeons de la nôtre. Est-ce que c'est pas un peu injuste? Mais bon, peut-être que je vais trop loin. Alors, je reviens à quelque chose que Patrick a dit au tout début de notre discussion. Il a dit que si, avec son équipe, ils avaient travaillé sur l'interruption, l'interjection, etc., eh ben, c'était pour que l'échange soit plus naturel. Et ce mot de naturel, il m'interroge depuis tout à l'heure. Parce que, qu'il soit intéressant de parler par la voix avec une IA, ça je comprends. Quand on conduit, qu'on ne peut pas utiliser un clavier, ou même quand on ne sait pas écrire, hein, eh ben, c'est très bien qu'on puisse discuter avec la machine par la voix et de la manière la plus fluide possible. Mais il y a plein d'autres circonstances où je me demande s'il n'y a pas une nécessité à préserver une certaine bizarrerie de l'interaction vocale avec la machine.
Robot, talk to me, please.
Juste pour qu'on sache qu'on est en train de parler avec une machine. Et si je pense à ça, c'est sans doute que je suis toujours sous l'influence du test de Turing, qui proposait d'évaluer l'intelligence d'une machine à son aptitude à se faire passer pour un humain, donc à nous berner. Étrange paradigme, hein, dont je pense qu'il continue de peser sur notre rapport au langage des machines, et qui oriente ma question. Est-ce qu'il faut vraiment que le langage des machines soit le plus naturel possible?
Si on a une IA qui vous enseignent une langue, on voit bien que là, c'est important que la bizarrerie soit la plus faible possible. Et il y a d'autres cas, en effet, où on préférait que l'IA soit visiblement artificielle. C'est à nous de voir en tant qu'usagers, que société, quels usages on veut favoriser, lesquels on veut limiter.
Oui, mais tu peux être satisfaire de ça en tant que chercheur? Tu peux dire, OK, moi je crée une possibilité technique, après, bon, bah, on verra ce que ça donne,
non,
etc.
Non, je ne m'exclus pas de ça. Un chercheur en IA, surtout de nos jours, ne peut plus du tout se dédouaner en disant, soit je ne sais pas ce qu'on fait de mes travaux, soit je sais, mais ce n'est pas mon affaire. Là, ça pénètre tellement la vie de tout le monde qu'il est difficile de s'en laver les mains. Mais on peut avoir un point de vue nuancé sur ces questions-là et de voir quels sont les usages vertueux, intéressants, utiles, et ceux qui ne le sont pas, qui sont problématiques. Et pour ceci, de réfléchir aussi à des solutions qui sont pour certaines techniques, d'autres qui sont plus réglementaires, politiques, etc. Donc c'est vraiment un projet de société, ce qui nécessite de mettre autour de la table des gens techniques et des décideurs et des gens d'autres disciplines.
Je trouve très important ce que Patrick dit là. Le chercheur en IA ne peut pas s'exonérer de la réflexion sur ce qu'il fabrique. Il ne peut pas s'exonérer de la réflexion, mais aussi de trouver des moyens de répondre aux problèmes que pose ce qu'il fabrique. Si on fabrique une machine capable de parler de manière naturelle et donc susceptible d'être confondue avec un locuteur humain, ce serait intéressant aussi, comme le dit Patrick, de développer des outils qui permettent de savoir si c'est une machine qui parle.
Mais non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une IA.
Alors comment faire? On pourrait limiter techniquement la fluidité de l'échange.
Mais non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une IA.
Ce serait facile. Mais ça irait contre la logique qui veut que, quand on sait bien faire quelque chose, on a tendance à le faire bien. Autre stratégie donc, on pourrait informer le récepteur que ce qu'il entend provient d'une machine.
Vous êtes en train de converser avec une IA.
Que ce qu'il entend est le produit d'une IA.
Vous êtes prévenu, attention aux arnaques.
Une de ces techniques porte un nom, watermarking en anglais.
Filigrane ou tatouage en français.
Il s'agit de marquer le contenu de telle manière que la machine qui le reçoit sache automatiquement que ce contenu est synthétique. Alors ça pourrait être super utile dans plusieurs cas.
Automatic translation.
Premier exemple avec la traduction automatique.
First example with machine translation.
المثال الأول مع الترجمة الآلية.
第一个例子是自动翻译.
Parce que dans le domaine de la traduction automatique, les chercheurs se plaignent de plus en plus que les IA se nourrissent de corpus de textes traduits par des IA. Ce qui a pour effet, au bout d'un moment, d'affaiblir ce que les linguistes appellent la personnalité de la langue. Parce que ces modèles de traduction automatique, ils traduisent bien, de mieux en mieux, mais toujours un peu plus platement que les humains, parce qu'il y a plein de choses qu'ils perçoivent pas. Donc, que les modèles sachent distinguer automatiquement les traductions faites par l'IA, ce serait utile pour qu'ils ne produisent pas à force des traductions de plus en plus fades.
Politics and deepfakes.
Autre exemple dans le domaine politique. Ça permettrait de manière certaine d'identifier les deepfakes. Parce qu'elles seraient marquées comme contenu provenant d'une machine. Et ça aurait pu éviter ce qui s'est passé par exemple en Slovaquie pendant les dernières élections législatives d'octobre 2023. 48 heures avant l'ouverture du bureau de vote, a été mise en ligne une conversation entre le chef de file du parti centriste et pro-européen, qui s'appelle Slovaquie Progressiste, et une célèbre journaliste d'investigation dont tout le monde connaissait la voix. Et dans ce son, ils discutent de la façon dont le vote rom va être manipulé pour favoriser sa candidature. Et le truc a tourné à fond dans tous les réseaux sociaux slovaques.
A teraz máme lepší budget, aj hlasy z osád a ľudí vo volebných miestnostiach.
Zase príde niekto a naháže listky priamo?
Tým sa netráp. Proste toto je už vyriešené.
No, dobre. A ja? Je pravda, že náhodne vyhrám nejakú masnú tortu?
C'était un faux. Fabriqué avec l'IA, mais il n'y avait aucun moyen de le savoir pour ceux qui l'écoutaient. Je soumets à Patrick les deux exemples où le marquage pourrait être utile, traduction automatique et des informations. Comme il est ingénieur et méthodique, Patrick répond l'un après l'autre à mes deux cas.
Dans le premier cas d'usage, marquer des contenus de façon synthétique pour qu'ensuite des gens qui utiliseraient toutes sortes de contenus pour l'entraînement de nouvelles IA puissent faire la part des choses entre ce qui est synthétique et ce qui est naturel, même si de plus en plus il y aura des choses hybridées par ailleurs. Je pense que les outils actuels de tatouage peuvent faire l'affaire. Il faut que tout le monde joue le jeu, etc.
Après, les questions autour de la désinformation, là, on rentre dans des usages plutôt malveillants, et auquel cas, il faut que le dispositif technique soit beaucoup plus robuste, c'est-à-dire qu'il puisse résister à des attaques ciblées sur le marquage. Et ça, pour l'instant, techniquement, on n'y est pas. Ah, okay. Et ça risque d'être une course en avant, parce que parmi les outils qui permettent d'enlever des marques, il y a les IA elles-mêmes.
Attends, c'est-à-dire ? Ah oui, c'est-à-dire que tu utilises l'IA pour enlever la marque sur l'IA.
On peut entraîner des IA, donc des réseaux de neurones, pour modifier des contenus, de sorte que la qualité du contenu ne soit pas dégradée, mais que la marque soit diluée suffisamment pour qu'elle ne soit plus détectable de façon fiable.
C'est ouf.
C'est une histoire qui ne date pas de l'IA générative, hein. Ces histoires de course entre les gens qui mettent des marques et des gens qui les enlèvent, mais ça a pris une autre échelle avec l'IA générative.
C'est abyssal tout ça. Bon, au-delà de cette dinguerie de l'usage de l'IA générative pour masquer les marques contenues dans les productions de l'IA, il y a plein de questions. Ces marques, elles seraient posées par qui ? Avec quel contrôle ? Avec quelles sanctions ? Mais au-delà, il y a une question presque philosophique. Ce serait quand même étrange de marquer la parole produite par les machines. Comme s'il fallait la stigmatiser, mais au sens littéral du terme. De quel droit on se permettrait de faire ça ? Toutes ces questions-là, qu'on pose depuis le début de nos discussions, elles sont un peu flippantes par certains côtés, mais elles sont aussi passionnantes par d'autres. Et là, ça me donne envie de demander à Patrick si lui, qui bosse dans l'IA depuis 20 ans, il aurait pensé vivre un moment comme ça quand il a commencé ?
Non, non, la réponse est non, même il y a 30 ans. On est passé en 30 ans d'une période où les chercheurs se disaient « ça serait super si une IA pouvait reconnaître les objets dans une scène, une IA peut générer de la parole ». On se posait pas tellement la question de ce qui se passerait si ça arrivait, parce que en fait, c'était vraiment confiné au laboratoire. Et en même temps, on en rêvait quand même. C'était quand même ça le moteur. Mais et puis on peut remonter au début de l'informatique. C'était quand même le projet initial d'avoir des machines entre guillemets pensantes, etc. Et c'est vrai que depuis une dizaine ou une douzaine d'années, l'accélération et les progrès en intelligence artificielle, grâce à l'explosion donc des réseaux de neurones artificiels, qui eux-mêmes sont une vieille invention, je pense pas que beaucoup de monde l'avait prévu. Oui, y compris les gens de la communauté, pour beaucoup, ça les a surpris. C'est assez passionnant dans une carrière de chercheur d'avoir vu cette accélération et certains de ces objectifs qui paraissaient très très lointains, finalement se rapprocher, même s'il y en a d'autres qu'on pensait proches qui se sont peut-être éloignés.
Je pensais que ce serait ma dernière question. Mais alors là, Patrick, il a réactivé ma curiosité. Parce que j'aimerais bien savoir à quoi il pense quand il parle d'objectifs qui se sont éloignés alors qu'on les pensait proches. Mais bon, avant, j'aimerais savoir dans quel champ il estime qu'on s'est rapproché de quelque chose qu'on pensait encore très lointain.
Il y avait eu des progrès spectaculaires sur la génération d'images fixes, mais la vidéo semblait... C'était une autre frontière, parce qu'il faut que là, entre guillemets, une compréhension de la figure du monde et de la dynamique, en gros, de comment marche le monde pour que les mouvements soient plausibles. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de laisser traîner des incohérences dans une vidéo, ça saute aux yeux. Là où les photos au début, alors maintenant on fait tous attention à ça, mais quand il y avait six doigts, on le voyait pas, etc. Où il y a des choses qui sont pas plausibles dans la disposition d'une scène visuelle. Dans une vidéo, à partir du moment où les choses bougent, on se rend compte beaucoup plus facilement des incohérences. Et après les images fixes, les vidéos ont commencé à être générées de façon très plausible par des IA génératives. Et ça, c'était un moment assez, assez impressionnant.
C'est drôle comme un quidam n'a pas le même regard qu'un chercheur qui sait vraiment ce qui est facile et difficile pour une machine. Pour moi, une fois qu'il a été possible de faire fabriquer à l'IA des images fixes, la génération de vidéos, c'était une étape évidente, donc pas très impressionnante. Lui, Patrick, il sait ce que cela nécessite, les images mouvantes. La compréhension de la physique du monde, comme il dit. C'est beau comme expression. Et donc, il y voit un nouveau franchissement qui date de 2 ans maximum, il dit. Et je trouve très intéressant que la difficulté soit, pour une machine, la compréhension du monde physique. Ça me fait penser à une phrase qu'avait dite Yann LeCun, là, le pionnier de l'intelligence artificielle qui travaille aujourd'hui chez Meta. Il avait dit un jour, en substance, « Votre chat en sait beaucoup plus sur la gravité que n'importe quelle intelligence artificielle. » Ça, je pense qu'il faut le garder en mémoire. La vidéo, Donc, selon Patrick, c'est une avancée qui est arrivée plus vite que prévu. Mais alors, j'aimerais savoir maintenant ce qu'il avait en tête quand il a parlé tout à l'heure d'objectifs qu'on pensait proches et qui se sont peut-être éloignés.
Tout ce qui est la robotique autonome, et en particulier les voitures autonomes, dans les 10 dernières années, on a cessé d'entendre des gens qui disaient « demain, ce problème est réglé ». Le fait est que ce problème n'est pas du tout réglé. La voiture autonome pour Monsieur Tout-le-Monde, elle n'existe pas. Le robot taxi commence à arriver. Mais c'est très très récent et ça a mis beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, en tout cas annoncé. Et donc on sous-estime parfois les difficultés. Et là, c'est typique d'une IA qui se frotte au monde ouvert réel, avec tout un tas de problèmes de sécurité, une complexité folle. Je pense que la robotique autonome, en interaction avec des êtres humains, dans des environnements ouverts, complètement imprévisibles, on aurait pu imaginer que dans certains cas, ça aille plus vite. Un cas qui est beaucoup mentionné, c'est la robotique au service des personnes âgées. Enfin, les robots sont encore assez loin du compte dans leur capacité d'interaction fine. En fait, l'autre chose qui est très compliquée, mais qui est liée pour l'instant à la très faible compréhension effective du monde des humains et du monde physique par ces machines, c'est donc la compréhension du contexte. Et ça, on en est quand même encore assez loin.
Évidemment, des progrès sont toujours possibles. Et d'ailleurs, ils peuvent arriver plus vite que prévu. Mais bon, en attendant, ce que dit Patrick, c'est frappant. Le problème, c'est le contexte. Et notamment ce que le contexte a de physique. Et ça me rappelle ce qu'a identifié de manière très parlante le grand mathématicien et philosophe français Daniel Handler dans un livre magnifique qui s'intitule « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». Pour Handler, les machines sont très fortes pour régler des problèmes. Mais, explique-t-il, tout dans notre vie ne se résume pas à un problème. Trouver le meilleur coup aux échecs, c'est un problème. Écrire une lettre d'amour, à la limite, c'est aussi un problème. Et ça donc, les machines le font assez bien. Mais il y a aussi dans notre vie des situations. Et qui nous occupent d'ailleurs un peu plus. Être amoureux, c'est une situation. Être angoissé, c'est une situation. Et ça, ça échappe aux machines. Les machines, elles sont assez nulles pour saisir les situations. Et nous, humains, nous sommes constamment dans des situations. Et évidemment, quand l'idée est de produire une parole, avoir du mal avec les situations dans lesquelles cette parole va surgir, ou même avoir du mal à prendre en compte la situation pour produire la parole, c'est une limite énorme. Alors moi, plein de bienveillance, je veux aider la communauté de l'IA à trouver des solutions. Et j'en propose deux. La première, ce serait de doter ces machines parlantes de capteurs, de senseurs qui pourraient leur permettre de saisir une situation, au moins dans sa dimension physique. Par exemple, si elles pouvaient nous voir, nous sentir d'une certaine manière, peut-être que les machines pourraient mieux saisir la situation d'énonciation. Je soumets donc à Patrick ma première solution, les capteurs.
Mais les capteurs, c'est pas tout. Il y a aussi avoir le contexte historique, avoir le contexte anthropologique, comprendre des situations. Pour un humain, des situations d'interaction avec d'autres personnes. Et c'est quelque chose de tellement riche, en tout cas pour l'instant, faire en sorte qu'une IA, y compris embarquée dans un dispositif robotique, puisse avoir une compréhension aussi riche que celle qu'on a des nous humains, et semble-t-il encore assez loin, même si on peut être surpris parfois, peut-être on imagine des choses très complexes dans notre façon de fonctionner, nous humains, et on se rend compte, comme on l'a vu avec le langage, que peut-être il y a des façons mécaniques, en tout cas computationnelles, qui permettent de le faire différemment, mais de façon aussi efficace d'un point de vue des résultats. Nous verrons.
Ah, quel incurable ingénieur ce Patrick. Ça lui ferait mal de renoncer à ce rêve d'un monde complètement compréhensible. N'empêche que pour l'instant, ma proposition des capteurs est rejetée. Alors j'en propose une autre. Une des forces de l'IA, c'est qu'elle peut apprendre constamment de ses interactions, ce qui lui permet de s'adapter à l'humain avec lequel elle converse. Alors bon, c'est peut-être pas aussi puissant que la capacité à saisir une situation dans son ensemble, mais quand même, l'adaptation à une personne grâce à une prise en compte de ce qui passe par la langue de cette personne, ça pourrait être un premier pas très intéressant, non ? Sauf que là, Patrick avance un truc que j'ignorais complètement et qui m'a fermé le clapet.
Lorsqu'on continue à adapter une IA, il y a le risque de perdre, y compris parfois de façon catastrophique, des capacités qu'elle avait acquises au départ. Donc c'est un des sujets, c'est comment ne pas oublier les choses utiles. pour ça que l'adaptation doit se faire de façon très précautionneuse, et il y a tout un tas d'outils pour faire ça, mais c'est une question vraiment ouverte, ne pas perdre le socle de départ.
Dingue. L'IA, donc, ne doit pas trop s'adapter, sinon elle perd des connaissances qu'elle avait au départ. Mais est-ce que nous, on fonctionne de la même manière ? Enfin, est-ce que quelqu'un qui s'adapterait trop à son interlocuteur perdrait ce qu'il sait, ce qu'il est, sa personnalité ? Ou alors, est-ce que s'adapter à son interlocuteur est au contraire la marque d'une empathie qui nous permet à nous, humains, de vraiment nous parler et sans entraîner la perte d'aucune connaissance, hein ? Bon, j'avoue, je sais pas. Mais en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que l'analogie elle-même est pertinente ? Est-ce que c'est pas un peu stupide d'essayer de comparer deux manières de créer de la parole qui n'ont vraiment rien à voir ? Peut-être que c'est stupide. Enfin, dans ce cas, c'est encore plus étonnant que nous soyons capables de nous comprendre aussi bien, nous et les machines. Bon, Patrick m'a éclairé sur plein de points, et je reconnais, j'ai aimé l'écouter. Parce qu'il est calme. Enfin, je veux dire par là qu'il n'est pas en train de dénigrer l'IA, ni de nous vendre du rêve. Mais reste en suspens une question que je ne lui ai pas posée et que je me pose depuis longtemps, enfin, depuis en gros l'arrivée de GPT. Une question qu'un jour, le grand écrivain de SF Alain Damasio a formulée avec beaucoup plus de verve que moi. Il racontait, Damasio, son voyage dans la Silicon Valley, c'était juste après le Covid et un peu avant la sortie de ChatGPT, et en particulier la discussion qu'il avait eue là-bas avec un chercheur qui travaille sur les chatbots.
Bah, c'est-à-dire, il m'a montré comment ça fonctionne, comment lui s'en sert. Donc lui, il fait ses revues de presse chaque matin avec avec des IA. Il a une espèce de board of IA, comme ça. C'est-à-dire, il a un groupement d'IA. Et il travaille avec ses IA pour générer les revues de presse dont il a besoin, sur les sujets dont il a besoin. Il sous-traite énormément de choses à ses IA. Et surtout, il travaille sur les robots de conversation, quoi, sur ces fameux chatbots. Et il m'a fait comprendre plein de choses. Notamment, il m'a fait comprendre que... Moi, j'étais encore... c'était marrant, j'étais encore comme Elon Musk, vous savez, quand il fait Neuralink, où il se dit, je vais coupler des câbles informatiques, du silicium à du carbone, aux neurones et aux synapses humaines, et je vais créer des interactions cerveau-machine à partir de ça, je vais faire des cyborgs à partir de ça. Ce qui est complètement stupide, parce que d'abord, ça marche pas, et puis il y aura des effets secondaires destructifs. Et lui, il m'a dit, mais en fait, la meilleure façon de communiquer avec une machine, c'est de se servir du langage. Tu vois? Et j'avais jamais posé les choses comme ça dans ma tête, quoi. Je m'étais dit, mais ouais, en fait, c'est des machines de langage. On dialogue avec elles, on converse avec elles. Et le médium, l'interface qu'on a choisi pour communiquer avec elles, c'est le langage.
Et ben voilà. Moi, j'aimerais ne pas en rester à cette épiphanie de Damasio. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit par le langage qu'aujourd'hui on interagisse le plus immédiatement avec les machines? Et le fait qu'on puisse se comprendre avec les machines, est-ce que ça signifie qu'on parle la même langue ? Pour ça, je sais qui il faut voir. Un chercheur d'origine russe qui travaille sur le plateau de Saclay et qui s'appelle Alexei Greenbaum. Ce sera dans le prochain épisode.